Nous avons reçu une lettre de Bernard Aubry qui a été hospitalisé parce qu'il s'est blessé à la main en faisant du bricolage. Il est dans un centre de rééducation à Courtry. Courtry ou Coutry. Et il demande la prière. Et donc, voilà, il demande qu'on informe l'Église et qu'on puisse prier pour notre frère Bernard, qu'on voit de temps en temps le dimanche matin, et qui habite à Lagny. Ce soir, donc, j'aimerais commencer une série de 5 messages, donc les mercredis du mois de septembre, sur le premier livre de Samuel. Et donc, nous verrons quelques chapitres de ce livre et nous en tirerons des leçons spirituelles pour notre vie aujourd'hui. L'histoire de Samuel a eu lieu environ aux alentours de 1000 avant notre ère. Donc, c'est un peu avant David. Et un millénaire avant que Jésus soit né, il y avait cette histoire. C'était le temps des juges. Un temps terrible, comme nous allons en reparler. Mais je vais demander d'abord à Samuel lui-même de venir lire dans le premier chapitre les 23 premiers versets, s'il te plaît.
Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils du Tohu, fils de Tsuph, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: « Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit: « Non, mon seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit: « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit: « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra.
Dans l'Ancien Testament, on a ces récits très touchants de personnes comme vous et moi, quelque part, hein, mais à qui il arrive des choses extraordinaires parce qu'ils ont foi en Dieu. C'est ce que résume le chapitre 11 des Hébreux dans le Nouveau Testament. Il dit « c'est héros de la foi » et on pourrait dire que Anne et Samuel en font partie. On doit les regarder comme des modèles de foi et on doit s'inspirer de leur vie. Ils vivaient à une époque très très troublée. Israël était le peuple élu depuis que Dieu avait appelé Abraham et malheureusement Israël ne vivait pas selon son élection. Il était en plein chaos, en plein décadence. Le livre des Juges, qui est juste avant, témoigne de cette décadence terrible où il y avait de l'idolâtrie, il y avait du désordre, du débordement. Le temple n'existait pas, c'était encore le tabernacle et Jérusalem n'était pas encore la capitale puisque c'est David plus tard qui va en faire la capitale. Tout se passait à Silo, c'est dans ce petit village que se trouvait l'arche et le tabernacle. Et il y avait un sacrificateur, Élie et ses deux fils qui officiaient. Dans le livre des Juges, on voit que chaque fois que Israël désobéissait, Dieu le châtiait en envoyant des ennemis. Et le péché amenait Israël à s'affaiblir et à se faire attaquer par ses ennemis. Quand ils étaient persécutés terriblement, ils criaient à Dieu, ils retournaient à Dieu, et Dieu leur envoyait un juge. C'est pour ça que ça s'appelle le livre des Juges. Un sauveur, un homme de Dieu, ou une femme de Dieu parfois, pour les délivrer. Et alors, ils étaient délivrés, ils étaient dans la joie, et puis, ils retombaient. Et ils criaient, tout ça pendant des décennies et des siècles. Et on est en plein dans cette période. Il y avait une crise morale en Israël, puisqu'il y avait de la débauche dans le pays. On va voir même que les fils du souverain sacrificateur étaient débauchés. Il y avait une crise spirituelle, évidemment, puisqu'il y avait de l'idolâtrie, il y avait de la rébellion, il y avait un aveuglement spirituel, une méconnaissance de la parole de Dieu. C'était vraiment une situation très ténébreuse et terrible. Et puis il y avait même une crise politique par-dessus tout, puisqu'il y avait des guerres constantes, il n'y avait pas de stabilité. Et c'est au cœur de la crise que Dieu va susciter un homme de Dieu, Samuel. Samuel sera pour nous un modèle, mais aussi un type de Jésus-Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui nous parle du Sauveur, de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, qui vient au moment de la crise. La crise, pour nous, c'est quoi? C'est la mort. C'est le jugement de Dieu, c'est notre péché, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Et Christ est venu nous en sortir. Et là, Samuel, il va sortir Israël de son marasme et de son aveuglement, mais ça ne va pas être sans difficulté. Notre société ressemble un peu. Nous passons dans une crise morale, spirituelle, politique, économique même, on en rajoute. Et on en parle depuis tellement d'années. Moi, depuis que je suis adolescent, on est toujours en crise. C'est la crise. Et on dirait qu'on ne va jamais en sortir. Et je pense que ça joue sur le moral des Français à force de dire, voilà, on est tout le temps dans la crise. Mais normalement, une crise, c'est passager et ça réveille et on s'en sort. Sauf que, apparemment, on n'a pas l'air de s'en sortir et d'être réveillé. En tout cas, dans ma vie, il y a eu un réveil. C'est lorsque je me suis tourné vers le Seigneur. Et ça a changé le cours de ma vie. Et cette crise a été bénéfique. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Ici, on trouve une famille qui est assez heureuse et en même temps assez divisée. Elkana, c'est le mari, et il a deux femmes, Anne et Pénina. Et Pénina, ça veut dire perle, et Anne, ça veut dire grâce. Donc, c'est une bénédiction. Sauf que Dieu n'a pas demandé d'avoir plusieurs femmes. Dans le livre de la Genèse, lorsqu'il établit l'union entre l'homme et la femme, parce que pour que l'homme ne soit pas seul, il dit, tu t'attacheras, l'homme s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Et la polygamie est une déviation de la volonté de Dieu. Les peuples païens le faisaient et Israël s'est mis à copier ces peuples. Étant allé au Cameroun, j'ai vu des familles polygames, j'ai vu des villages où tout le village était, c'était un mari avec ses femmes en fait, hein. Il avait 5 ou 6 femmes et avec le nombre d'enfants, ils avaient fait un village. Et c'est comme ça que les villages démarraient là-bas. On peut dire, mais c'est formidable parce que là-bas, c'est un gage d'être élevé dans la société. Plus vous avez de femmes, c'est parce plus vous êtes riche en fait, hein, parce que vous pouvez les entretenir. Et plus vous avez d'enfants, plus vous êtes quelqu'un de remarquable. Sauf que ce qu'on remarque quand on s'approche de près, c'est que la première femme, c'est la plus âgée souvent, et que chaque fois il épouse une plus jeune. Donc on voit qu'il y a de la convoitise là, hein. C'est qu'il veut garder une femme de plus en plus jeune, lui, tout en vieillissant, le mari. Deuxièmement, on ne voit jamais de femme avoir plusieurs maris. Ça n'existe pas. C'est même absolument interdit dans la société et ça choquerait les gens là-bas. Comment? Une femme, hein, avec polyandre, avec plusieurs maris? Donc c'est que dans un sens. Et ensuite, eh bien, on voit qu'il y a des divisions, des querelles terribles, cachées entre les femmes. La première essaye d'être la chef parce que c'est la première arrivée, mais il y a les jeunes qui arrivent derrière, qui sont plus vigoureuses, qui ont peut-être plus d'enfants. Il suffit qu'il y en ait une qui soit stérile et les autres ont des enfants, et ça fait de terribles divisions. C'est le cas ici. Pénina était féconde, mais elle avait vraiment un sale caractère, hein. Elle faisait souffrir, elle persécutait l'autre femme. Anne, qui elle était stérile. Ce qui nous choque de prime abord quand on lit ce récit, c'est que Anne a l'air d'être la plus spirituelle et Pénina la moins spirituelle, mais c'est Pénina qui est bénie par des enfants et c'est Anne qui est stérile. Pas si vous avez remarqué ça. Et parfois, on a l'impression que la vie est injuste. Et certains vont même à dire Dieu est injuste. Hein. Est-ce que Dieu est injuste? Et non, c'est que au sein de cette épreuve, Anne va découvrir quelque chose, hein, de la part de Dieu. Tandis que Pénina, qui est très plutôt légère, hein, une perle, une jolie perle, elle ne va pas chercher Dieu. D'ailleurs, que dit le Proverbe 31,10? C'est intéressant. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, que les péninas. Hein? Ah, les perles, c'est la femme jolie, la femme avenante, la femme peut-être qui a plein de bijoux, qui est séduisante, maquillée. Ouh là, oui, dis donc. Mais si cette femme n'est pas vertueuse, si elle n'est pas intelligente, comme le dit la Bible, c'est-à-dire connaissant le Seigneur, elle ne vaut pas grand-chose aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le cœur, c'est l'intérieur. Dans le Nouveau Testament, Pierre, hein, dit, ayez cette parure, non pas extérieure, mais cette pureté incorruptible, hein, cette douceur à l'intérieur. C'est dur quand on est jeune et qu'on cherche une épouse dans notre société, parce que la première chose qu'on va utiliser, c'est le modèle du monde, c'est-à-dire il faut qu'elle soit un mannequin, quoi. Voilà, si elle ne se rapproche pas du mannequin, je ne vais pas être attiré par elle. Mais quand on est chrétien, tout ça doit être renouvelé, doit être changé. Ce qu'on doit chercher, c'est cette pureté intérieure, cette vertu, cette âme précieuse. Le mari, Elkana, est un homme bon parce que, sachant que sa femme souffre, eh bien, il s'occupe d'elle beaucoup plus. Il essaie de la consoler, mais il n'arrive pas à la consoler pleinement parce que ce qu'elle veut, c'est un enfant, un fils. Pourquoi les femmes juives souffraient de ne pas avoir d'enfants? Voilà. Toutes attendaient le Messie. Depuis la Genèse, Dieu avait dit, hein, la semence de la femme, hein, écrasera la tête du serpent. Et toutes les femmes juives attendaient ce jour où la semence de la femme allait délivrer Israël. Elle s'est dit, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Et ne pas avoir d'enfant, c'était la pire des malédictions. Hein. Une femme préférait tout sauf être stérile. Et ici, il y a une désunion, il y a une division dans cette famille qui symbolise bien ce qui se passe en Israël à cette époque-là. Et Anne à travers cette crise, va se rapprocher de Dieu. Dans toutes les décadences, dans tous les moments où les ténèbres tombent sur une société, il y a toujours des gens pour chercher Dieu quand même, pour garder la lumière allumée. On pourrait dire, mais regardez ce qui se passe dans notre monde, regardez ceci, cela, mais il y a des frères et des sœurs qui tiennent ferme pour la vérité, qui aiment le Seigneur, qui font le bien. Il y a tellement de corruption, de crimes, de violence, et en même temps, il y a des personnes qui ont choisi le bien, qui ont choisi la grâce, qui ont choisi d'aimer au lieu de haïr, qui ont choisi de pardonner au lieu de se venger, qui ont choisi de donner au lieu de recevoir. Et ici, Anne va être cet exemple de cette personne en pleine crise, en pleine souffrance, elle va crier vers Dieu. Et donc, elle vient au temple et là, eh bien, elle pleure devant Dieu. J'aime beaucoup cette expression, hein. Elle répand des larmes devant le Seigneur. Elle n'a qu'une solution dans sa vie, c'est Dieu. Et en fait, c'est la meilleure. À cette époque-là, il n'y avait pas de traitement pour la stérilité, hein. Il n'y avait pas de docteur qui pouvait vous aider. Il y avait des remèdes de rebouteux horribles et effrayants, mais il n'y avait pas de docteur. Aujourd'hui, quand quelqu'un est stérile, hein, un couple est stérile, c'est la même souffrance, j'ai remarqué. Il y a de plus en plus, hein, de jeunes couples même, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Une des raisons probables, c'est le stress. C'est la vie trépidante qui empêche la femme d'être prête et son corps, hein, de se préparer à avoir un enfant. Alors que quand la femme est prête, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, il y a aussi des raisons de stérilité, hein, on peut avoir des problèmes tout court, mais ce n'est pas le plus fréquent. Que faire quand on est stérile? Eh bien, il faut prier, premièrement et dernièrement. Il faut demander au Seigneur. Mais la stérilité dans la Bible, hein, ça nous parle d'autre chose. Ça nous parle aussi de ne pas avoir de fruits dans notre vie, d'avoir une vie qui ne donne rien. Il y a des personnes, ils vivent toute leur vie et en fait, ils n'ont jamais vraiment eu beaucoup de fruits. Leur vie n'a pas compté pour l'éternité. Leur vie n'a pas aidé d'autres. Ils ont vécu pour eux-mêmes. Ils ont vécu en cherchant leur propre intérêt, leur propre gloire ou leur propre confort, leur propre richesse. Et puis les autres derrière, bah, tant pis, hein, si tout le monde me passe derrière, c'est pas grave. Alors que Dieu veut qu'on porte du fruit. C'est le Seigneur dans Jean chapitre 15, hein, qui a dit, vous êtes les sarments, je suis le vrai cep. Et celui qui demeure en moi, qu'est-ce qu'il a? Il portera beaucoup de fruits. J'aime cette expression aussi. Nous sommes comme des arbres, des plantes. Dieu veut qu'on soit plein de fruits. Les fruits, ça peut être des personnes qui sont touchées par l'évangile que nous avons transmis ou par notre témoignage de vie. Les fruits, ça peut être des chrétiens qui sont consolés, encouragés, fortifiés par notre prière, notre témoignage, là encore. Les fruits, ça peut être la famille qu'on a élevée. Ça peut être tout ce qu'on a fait pour la gloire de Dieu, pour le service du Seigneur. Ce n'est pas forcément très visible, obligatoirement, mais c'est lorsqu'on peut se retourner et dire, voilà, ma vie a eu du fruit. Dieu a donné du fruit à ma vie. Je plains les personnes âgées qui se retournent et qui ne voient pas beaucoup de fruits. Ça doit être terrible parce que vous ne pouvez pas recommencer votre vie. Hein. Ce n'est pas possible, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut consacrer sa vie au Seigneur. Et Jésus a dit, hein, pour pousser, donner du fruit, qu'est-ce qu'il faut? Comme le grain de blé, il faut mourir. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mourir à soi-même, mourir à justement son égoïsme et donner sa vie à Dieu. Et quand on donne sa vie à Dieu, on a plein de fruits. Alors, je me souviens quand j'étais nouveau chrétien, je voyais les missionnaires ou les étudiants à l'Institut biblique ou les pasteurs qui avaient consacré leur vie et qui la consacraient devant moi. Et je me disais, oh non, c'est trop dur, c'est trop. Moi, je veux bien de Dieu dans ma vie, mais je veux qu'il ait une moitié, et puis l'autre moitié, c'est moi, et les loisirs, m'amuser, j'aurai mon boulot, je vais gagner de l'argent, je vais faire ci, voilà. Mais la moitié à Dieu, la moitié à moi. Mais ça, là, donner sa vie, ah non, c'est trop. Et puis, un jour, Dieu m'a appelé et j'ai dû donner une réponse. Et quand c'est Dieu qui vous appelle, c'est quand même difficile de rejeter Dieu si vous êtes vraiment croyant. Et j'ai dit, Seigneur, d'accord, tu me demandes ma vie, je te donne ma vie. Et je n'ai jamais regretté une seconde. Ma vie a été plus bénie que si j'avais gardé ma vie. Celui qui retient sa vie la perdra. Celui qui la donne portera beaucoup de fruits. Je reviens à Anne qui s'est mise à prier dans son épreuve. L'épreuve est vraiment, doit être une source de prière. Plutôt que d'être dans la critique, que d'être dans l'amertume, dans le découragement, dans la dépression même, le chrétien a le choix. On n'est pas obligé de déprimer. On peut dire non, par la foi, je veux me sortir de là. Et par la foi, je veux demander au Seigneur qu'il me délivre. Elle était dans l'amertume, elle était dans la difficulté, Anne, mais elle avait une foi telle qu'elle a été jusqu'à pleurer, et même elle avait l'air bizarre quand elle a pleuré. Ça veut dire qu'il y avait une intensité dans sa prière hors norme. Et Élie ne s'en est pas rendu compte. Ça montre l'état spirituel du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, ça devait être un des leaders spirituels d'Israël. Il ne se rend même pas compte que cette femme, toute simple, était en souffrance et surtout qu'elle avait une foi extraordinaire. Et c'est terrible quand les chefs religieux voient moins clair que les chrétiens de base. Quand on connaît la parole de Dieu, on voit vraiment clair, on voit la lumière du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on a des super diplômes ou qu'on est quelqu'un de très éminent dans la société religieuse qu'on voit plus clair que les autres. Il faut revenir à la parole et au Seigneur. Cette femme toute simple, elle a eu ce contact avec Dieu extraordinaire. Et quand Dieu met un fardeau sur le cœur, rien ne peut l'arrêter parce que c'est Dieu qui lui a mis ce fardeau. Elle a prié, prié, prié. Et Élie finalement lui dit, mais arrête de cuver ton vin là au temple, c'est pas normal. Il dit, mais je suis pas ivre, je pleure, je prie. Il dit alors, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. En disant ça, il a fait une prophétie, mais je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte. Quand on voit la suite de son histoire, il était vraiment sans discernement aucun, Élie, mais il avait des accès parce qu'il était souverain sacrificateur. Dans sa grâce, Dieu lui donnait des petites lumières comme ça. Que le Seigneur t'exauce. Et le Seigneur, bien sûr, voulait l'exaucer. Et c'est le mystère un peu de la prière. Dieu sait de quoi on a besoin avant même qu'on le demande. C'est vrai ou pas? C'est même écrit. Alors la question, c'est pourquoi on va prier? Puisqu'il sait déjà qu'on en a besoin. Dieu sait ce qu'il va exaucer, ce qu'il ne va pas exaucer. Il y a des choses que Dieu ne veut pas exaucer, qui ne sont pas dans sa volonté. Et il y a des choses que Dieu veut exaucer. Alors, on se dit encore, mais alors pourquoi prier? Puisque de toute façon, Dieu va exaucer ce qu'il veut exaucer et il ne va pas exaucer ce qu'il ne va pas exaucer. Pourquoi moi, je vais prier là? Vous voyez, c'est le mystère un peu de la prière. Et il n'y a pas mille réponses. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu veut qu'on prie. Ça, c'est sa volonté déjà. Et il veut qu'on demande. Jésus l'a répété plusieurs fois. Frappez à la porte, demandez. Il a dit, la veuve, hein, avec le juge inique, elle a persévéré. Il faut prier, persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que je pense que c'est cette relation avec Dieu, c'est cette union avec Dieu dans la prière qui compte plus qu'exactement les mots que je vais dire dans ma prière. Il y a des prières qu'on a priées avec foi et on n'a pas été exaucé. Peut-être parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. On avait une certaine foi, une certaine croyance, mais pas la volonté de Dieu. Et puis il y a des prières, je me souviens avoir prié souvent, des prières sans beaucoup de foi. Hein, disant, je prie, mais vraiment. Et puis exaucer. Seigneur, merci parce que franchement, je ne la méritais pas. Et en fait, on ne mérite aucun exaucement. C'est tout par grâce. Qui peut dire, ben moi je pense que là j'ai bien prié, là. Là, il va m'exaucer, double même. Non, 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 non. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes exaucés. Et Anne, eh bien, sera exaucée. Elle a prié jusqu'au bout, elle était au bout d'elle-même. C'est là que la prière est la plus forte, parce que là, on est vraiment en contact avec Dieu. On peut avoir des prières mécaniques. où on n'est pas en contact avec Dieu. Mais là, ce n'était pas une prière mécanique, c'était son âme qui était répandue devant Dieu. Elle était à nu, là, devant le Seigneur. Seigneur, tu vois, j'ai plus rien d'autre. Et donc, un fils lui naît. Et qu'est-ce qu'elle dit immédiatement? Elle dit, je vais le consacrer à Dieu. Elle avait fait ce vœu qui serait un nazir. Un nazir, c'est le mot pour consacrer. C'est pour ça qu'on a dit de Jésus qu'il était un naziréen. Et il y avait un jeu de mots avec nazaréen, de Nazareth. Mais le Seigneur Jésus a été consacré à Dieu aussi. Toute sa vie était pour son Père. Il était pour le salut. Jésus n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour nous, pour le Père. Il dit, tout ce que je fais, je le vois faire au Père. Je ne fais rien sans que ce soit avec le Père. Et c'est ce qu'on doit viser, nous aussi, d'être dans cette relation avec notre Père, de faire sa volonté. Elle consacre son fils à Dieu. Ça me fait penser à Abraham. Abraham a prié pour avoir ce fils de la promesse. Dieu lui avait dit, tu auras un fils, il fera une postérité immense. Et il n'avait pas de fils, pas de fils. Sa femme était stérile, il vieillissait de plus en plus, même ils sont devenus très très vieux. Il dit, c'est fini, on n'aura pas de fils, Seigneur, exauce-nous. Il a eu un enfant avec sa servante, Ismaël. Ça ne s'est pas très bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Sarah a chassé Ismaël et sa mère. Ismaël se moquait d'Isaac, qui est né après. Mais Isaac, finalement, est donné. Et Isaac, Dieu lui dit, maintenant tu vas l'offrir. Tu viens de l'avoir, maintenant tu vas l'offrir. Imaginez dans la tête d'Abraham, il a cet enfant tellement attendu et Dieu dit, tu vas l'offrir en sacrifice. Tu vas monter le matin et l'offrir en sacrifice. Et là, c'est un peu ce que fait Anne. Dieu lui donne l'attente de son cœur, elle dit, je l'offre à Dieu. Est-ce que c'est du renoncement? Est-ce que c'est une forme d'ascétisme de faire ça? Pas du tout, il ne faut pas se tromper là. C'est que pour eux, donner à Dieu, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Consacrer à Dieu, mais c'est merveilleux. Nous, on dit, oh, consacré à Dieu, le pauvre, il va pas avoir de vie, le pauvre Samuel. Il va passer sa vie dans le temple, c'est pas un cadeau. Mais si, c'est un cadeau d'être consacré à Dieu. Et Anne va donner son fils. Elle va d'abord le nourrir au sein pendant des mois et des années, certainement. Et puis, on va voir qu'elle va le laisser au temple. Elle ne pourra le voir qu'une fois par an. Combien c'est dur pour une maman qui n'a qu'un fils, de l'abandonner d'une certaine façon, mais elle le fait avec joie. Alors, c'est merveilleux quand on a une victoire, un exaucement, mais il faut le remettre à Dieu. Quand Dieu nous fait des cadeaux merveilleux, il faut les consacrer. Le premier cadeau qui nous est fait, c'est quoi? La vie éternelle. C'est le plus grand, le plus beau des cadeaux. Lorsque nous sommes repentis de nos péchés, nous avons cru et le Seigneur nous a donné gratuitement la vie éternelle. C'est un cadeau extraordinaire, unique. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette vie éternelle? Est-ce qu'on doit dire, j'ai la vie éternelle, maintenant je peux vivre comme tout le monde, mais au moins, je sais que si je meurs, moi j'ai la vie éternelle. Je peux faire comme les pécheurs, mais moi j'ai la vie éternelle. Eux, ils ne savent pas, ils vont peut-être aller en enfer, mais moi j'ai la vie éternelle. Est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Ça, c'est horrible comme attitude. Si Dieu nous donne la vie éternelle, c'est pour qu'on la vive, cette vie. Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Il faut la saisir. On a vu la semaine dernière dans Philippiens, il dit, mettez en œuvre, travaillez à votre salut. Cette vie éternelle, ce salut qu'on a, il faut le faire fructifier, il faut le vivre déjà sur la terre. Alors, il faut donner à Dieu ce salut quelque part. Seigneur, tu m'as sauvé, maintenant je veux te donner mon âme, ma vie. Et puis, chaque fois que Dieu nous donne quelque chose de bon, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens matériels, ça peut être une épouse, un époux, un enfant, il faut le donner à Dieu. Et c'est-à-dire, il ne faut pas dire, c'est à moi. Non, il faut dire, Seigneur, tu me le prêtes, tu me le confies. On dit, les enfants nous sont confiés par Dieu. Ils ne nous appartiennent pas, parce qu'ils vont avoir leur vie. Ils nous sont confiés. Comment est-ce qu'on s'en occupe pendant qu'ils sont sous notre garde? Et après, ils sont sous la main de Dieu. mais on doit bien les préparer, on doit leur faire connaître le Seigneur. Et nos biens matériels nous sont confiés, ça c'est souvent dans la Bible aussi, hein. Et on doit donc savoir les utiliser avec sagesse, et on doit les consacrer à Dieu. J'aime le dernier verset, hein, du prophète Malachie, où il dit, pendant le règne du Messie, même les cocottes, hein, ou les comment dirais-je, non, le mot m'échappe, pour faire cuire, donc les marmites, les chaudrons, voilà, les marmites seront consacrées à l'Éternel. Bon, une marmite, hein, c'est fait pour quoi? C'est pour faire la cuisine tous les jours. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais même ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans notre vie quotidienne doit être consacré à Dieu. Je dois l'utiliser pour la gloire de Dieu. Si j'ai une maison, je dois être hospitalier. Et si j'ai des biens, je dois être généreux. Avec la sagesse de Dieu, bien sûr. Alors, soyons des ânes et non pas des péninas. Soyons des Elkana, qui était un bon mari, et non pas des Eli, qui était un mauvais sacrificateur. Et ayons du discernement dans notre vie par la parole de Dieu. Nous sommes dans une société en plein déconfiture, avec la perte des valeurs totales. Tout s'effondre, il n'y a plus de repères. Nous avons un repère qui est la Bible, le Saint-Esprit. Et il faut rester les yeux dessus. C'est notre GPS, c'est notre boussole. C'est avec elle que nous pouvons garder le cap et que le Seigneur nous aide dans cela. Amen. On va terminer.